du moteur V6 entre Peugeot, Renault et Volvo. Donc il y a un moteur qui est commun à Peugeot, Renault et Volvo, il y a une quinzaine d'années. On peut également citer l'exemple d'Airbus, Airbus qui est un succès commercial important et technologique. Eh bien, Airbus est développé par un consortium de concurrents français, allemands et italiens. Je dirais qu'Airbus, ça reflète bien le principe de communauté européenne à l'échelle industrielle. Et puis, vous avez aussi d'autres cas de figure. C'est par exemple une firme concurrente qui va commercialiser un produit réalisé par un concurrent. Je ne sais pas, je prends l'exemple d'AGF. AGF va être présent en Europe et en Chine. Eh bien, en Chine, AGF peut très bien dire « j'étends ma gamme de produits, je propose aussi des produits de UAP qui sont des produits concurrents. » Ça permet de renforcer ma position en Chine, et pour UAP, ça permet de se développer en partenariat avec un concurrent. Ce que AGF ne ferait pas en France ou en Europe, qui est un marché plus... stratégique. Donc justement, on en vient un peu au risque. Qu'est-ce qu'il faut éviter dans la compétition? Il faut éviter de transférer aux concurrents tous les secrets de fabrique, les compétences clés, les principes de savoir-faire. Il faut éviter donc d'une certaine manière de dévoiler tous les avantages compétitifs aux concurrents, dans le cadre de cette alliance, avec le risque que le concurrent ne devienne à ce moment-là dangereux et dominant. Et rompre l'alliance uniquement à son profit. Donc la coopération entre concurrents a des limites. Oui. Donc coopération partenariat, c'est la même chose. Coopération, partenariat, on parle d'alliance, c'est également la même chose, sauf que le terme alliance stratégique, d'après Garrett et Dussauge, est surtout utilisé dans le cadre de la compétition, c'est-à-dire l'alliance stratégique, c'est la coopération entre concurrents. Si je devais apporter une nuance de langage dans mon propos, je dirais que l'alliance stratégique est utilisée quand on parle de coopération entre concurrents. Mais globalement, c'est la même chose, c'est-à-dire une relation mutuellement favorable où il y a un partage ou un échange de ressources, de compétences pour mettre en œuvre un projet commun dans l'intérêt de tous. C'est-à-dire que seul, je ne peux pas le mettre en œuvre. J'ai besoin des autres, y compris lorsqu'il s'agit de concurrents. Donc déjà comprendre que l'on a besoin des hommes, c'est parfois un point important pour le développement et pour la stratégie. Bon, on va faire 15 minutes de pause. Il va... Bien, donc... Merci, donc c'est pas une raison pour se laisser distraire. Donc nous allons reprendre, de toute manière vous occultez la caméra, vous faites abstraction de la caméra, et nous allons reprendre le cours là où nous l'avions laissé, et nous allons aborder, par rapport au schéma que je vous ai présenté en début de séance, nous allons aborder maintenant la question consacrée à l'évitement. Bien, alors l'évitement. Comme vous pouvez le constater sur le schéma, vous avez trois grandes politiques relationnelles, la coopération, l'affrontement ou l'évitement. Alors on a vu la coopération, maintenant on va parler de la notion d'évitement. Alors l'évitement, c'est une stratégie relationnelle qui consiste à chercher à échapper à la concurrence. Lorsque la concurrence fait peur, et donc il existe trois manières de procéder à une stratégie d'évitement. La stratégie de distinction, la distinction, on trouve ici, la stratégie d'entente, dont nous parlerons également, et la stratégie de rente. Distinction, entente et rente. Alors, parlons tout d'abord de la stratégie de distinction. Donc, le principe de la stratégie de distinction, c'est de faire en sorte d'éviter l'affrontement direct et frontal avec un concurrent. Donc il s'agit, dans cette stratégie, d'éviter l'affrontement direct et frontal avec un concurrent. Alors comment on fait pour éviter l'affrontement direct? Il y a déjà, c'est dans l'offre de produits et de services. Il faut savoir que plus l'offre de produits et de services est considérée comme substituable, et plus le risque d'affrontement direct devient inévitable. A l'inverse, plus l'offre de produits et de services est distincte, moins les risques d'affrontement direct sont élevés. Donc, je vais répéter en deux mots. Donc, plus les offres se ressemblent, plus il y a un risque de conflit et de guerre économique, plus les offres paraissent distinctes et moins les risques d'affrontement sont élevés.
Est-ce que c'est possible qu'il y ait un produit où il n'y a pas de produit de substitution?
Un produit où il n'y a pas de produit substitution? Ça peut exister, oui. Ben, si tous les produits se ressemblent au point que le consommateur les compare uniquement par les prix, par exemple, là, vous avez des risques d'affrontement très élevés. Si par contre, dans l'offre de produits qui est proposée au client, vous avez des produits de, d'une certaine manière différent et qui se distingue. En donnant au client l'impression que ce qu'on lui offre est unique, avec un monopole de l'offre perçue, d'une certaine manière. Qu'est-ce qui va se passer? Il y aura moins d'affrontements directs ou moins de risques d'affrontements directs. Pourquoi? Parce que l'entreprise concurrente ne se sentira pas nécessairement agressée. Et par ailleurs, comment ça se passe? Je vais vous donner un exemple concret. C'est souvent une technique qui est employée par le challenger vis-à-vis du leader. Pourquoi? Parce que le challenger, il est plus faible que le leader, donc qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas prendre le risque d'attaquer le leader sur son cœur de métier, sur sa gamme de produits, et de proposer exactement la même offre que le leader. S'il s'engage dans cette voie, c'est ce qu'on appelle l'affrontement, le challenger prend des risques. Pourquoi? Parce qu'il est plus faible financièrement, commercialement. C'est le cas, par exemple, si vous analysez le cas AOM Air Liberté Air France. AOM Air Liberté essaye de concurrencer Air France sur les mêmes lignes, en cassant les prix, avec moins de passagers, et avec des frais fixes plus élevés. Donc ça veut dire que AOM Air Liberté gagne des parts de marché en vendant des billets à perte. Donc l'affrontement est réel, et ce qui a produit la disparition de l'entreprise. Au bout d'un moment, AOM Air Liberté disparaît. Par contre, sur ce même secteur aérien, vous pouvez trouver peut-être des entreprises qui vont desservir des lignes que le leader ne dessert pas, ou proposer des services que le leader ne propose pas, et donc ne pas attaquer le leader sur son cœur de métier, mais sur des aspects jugés secondaires par le leader du marché, des segments de marché non rentables ou des segments de marché trop éloignés de la stratégie du leader. Et donc le leader ne va pas réagir à cette offre. Et finalement, on va avoir une stratégie qui consiste à se distinguer du leader sans donner au leader le prétexte ou l'occasion d'entrer dans une guerre des prix ou dans un affrontement concurrentiel fort. Les offres sont substituables ou non? Quand vous desservez une ligne régionale alors que le leader dessert une ligne nationale, l'offre de service proposée n'est pas substituable. Vous comprenez? Donc la concurrence, l'affrontement direct n'a pas lieu d'être. Là où vous avez un affrontement, quel que soit le marché ou le secteur d'activité, c'est lorsque vous avez des offres qui se ressemblent. Dans la catégorie de produits, dans la cible visée, dans la gamme de prix. D'accord ? Je vais vous donner quelques exemples. Premier exemple, le challenger qui va proposer un produit de qualité plus élevé, à un prix plus élevé que celui du leader. Eh bien, il ne va pas forcément gêner la vente du produit leader, parce qu'il va être positionné sur un autre segment de marché ou sur un autre... L'entreprise leader, à ce moment-là, elle ne va pas chercher à copier ce que fait le challenger ou à empêcher le challenger de se développer. Pourquoi? Parce qu'elle aurait plus à perdre qu'à gagner. En déclenchant une guerre des prix et en menaçant plaçant son produit en tête des ventes. Prenons un exemple. Dans les aspirateurs, vous avez Dyson, qui a lancé à un moment donné les aspirateurs sans sac. Eh bien, les aspirateurs sans sac, c'est une offre. C'est toujours un aspirateur, vous allez me dire. Mais c'est une offre qui est moins concurrente, ou qui apparaît comme moins concurrentielle, que celle des aspirateurs avec sac pour les leaders du marché, que sont Hoover, Electrolux, Philips. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Dyson a lancé son aspirateur sans sac, tous les leaders ont dit « c'est une hérésie que Dyson le fasse, on ne va pas l'empêcher de se tromper sur le marché et d'investir en perte. C'est un segment qui n'existe pas, pour lequel on a l'impression qu'il n'y a aucune demande. Donc laissons-le se développer. De toute manière, on ne croit pas du tout à cette stratégie. Et donc il n'y a pas un affrontement. D'accord ? Jusqu'au jour où effectivement Dyson a révélé un besoin, a créé un segment de marché à part, et où les leaders, eux, sont venus rejoindre Dyson en proposant une offre, une extension de gamme, avec une offre d'aspirateur avec sac. Mais entre-temps, Dyson, par sa stratégie de distinction, a réussi à pénétrer sur le marché et à se développer. Sans guerre des prix, sans affrontement. Parce que l'offre était perçue tellement différente par les consommateurs que Dyson n'apparaissait pas comme une menace pour les leaders du marché. À aucun moment. Les leaders du marché ne se sentaient pas menacés par l'offre proposée par Dyson. Vous comprenez ? Donc, cette stratégie de distinction, on va prendre un autre exemple après, mais cette stratégie de distinction, ça consiste à proposer une offre qui ne représente pas une menace directe pour le leader. Et donc, le challenger mise un petit peu sur l'inertie du leader. Le leader a beaucoup de moyens, mais n'est pas très réactif. Et d'une certaine manière, pour changer ou évoluer, ça va prendre du temps. Donc le challenger propose des produits ou des services qui ne menacent pas le leader laisse faire. Et c'est une manière finalement de se développer en marge ou à côté du leader. Ce n'est pas non plus copier ce que fait le leader en proposant un produit identique mais moins cher. C'est pas ça. C'est vraiment proposer quelque chose de différent pour pas donner l'occasion ou le prétexte au leader de réagir et d'entrer dans une guerre d'image ou dans une guerre de prix.
Monsieur ?
Oui.
Pour Carrefour.
Alors, pour Carrefour. De stratégie de distinction dans le.
De produits de substitution
par rapport à l'ancien. De produits de substitution. Qu'est-ce que ça a à voir avec.
Non, en fait, parce que. Enfin, on a eu une question pareille en CD. Donc, j'ai du mal à trouver.
Attendez. Si vous avez des questions pour les TD, vous avez un responsable de TD, un chargé de TD, vous lui posez les questions. Je ne vais pas répondre en cours d'amphi aux questions de TD. D'accord ? Moi, je réponds aux questions du cours. Comment ? Ce n'est pas la peine de crier avec moi.
Non, c'est que ça permet de voir les applications qu'on peut en TD, faire un rapprochement avec
le cours. Oui, s'il y a un rapprochement à faire.
C'est pour ça que vous posez des questions pour savoir s'il y a un rapprochement.
Je ne vois pas le rapprochement. Les produits de substitution avec Carrefour, je ne vois pas l'intérêt. Quel est le rapprochement avec la stratégie de distinction? Non, mais moi je vous retourne la question. Ça n'a rien à voir, ce que je vous présente, ce n'est pas les 5 forces de porteur ou les 6 forces de porteur. Non, attention. Attention, l'affrontement, c'est la concurrence directe. Hein. La substitution, c'est une offre qui provient d'un autre secteur d'activité et qui n'a rien à voir avec le secteur que vous étudiez. Je prends l'exemple des aspirateurs. Vous utilisez des aspirateurs, vous pouvez utiliser d'autres ustensiles électroménagers. Est-ce que le balai joue le même rôle que l'aspirateur et répond aux mêmes besoins que l'aspirateur? Si c'est le cas, c'est un produit substitution parce qu'il est fabriqué par d'autres entreprises dans une autre filière. Sinon, ce n'est pas un produit de substitution. D'accord?
Est-ce que vous diriez que les herbicides, ils affrontent directement Carrefour ou pas?
Le hard discount, a priori, ce sont des... Oui, ce sont des distributeurs, ce sont des concurrents directs. Ce sont des concurrents directs. Je ne sais pas si j'en parle d'ailleurs dans ce cours, de... peut-être un peu plus loin. Si vous me laissez avancer.
On a dit de toute façon tous les produits cargo sont substituables.
Je sais que j'en parle à un moment donné.
Non.
Ou alors j'en ai parlé déjà. J'en ai peut-être parlé dans la dernière fois. Bon, enfin, on n'est pas là pour répondre à des questions. Vous avez un travail à faire en TD?
Non, mais c'est bon, c'est déjà fait. Donc, juste un
temps. Donc, vous aurez une correction par l'enseignant chargé de TD. Non, le modèle de Michael Porter, etc., moi j'en ai parlé déjà l'année dernière, j'en ai parlé aussi au premier, dans le cadre du premier cours, je vous ai expliqué. Je vous ai invité aussi à lire un certain nombre d'ouvrages. Le cours ne s'arrête pas aux limites de l'amphi, et ça je vous le rappelle et je vous le redis, travaillez. Rien ne remplacera le travail que vous ferez en bibliothèque ou chez vous. Tout à fait. Si vous avez des questions à poser dans le cadre du cours que je vous présente, avec plaisir. D'accord ? Dans le cadre du cours. Maintenant, si c'est en rapport avec une notation que vous avez en TD ou dans une autre... ou un travail...
C'est dans votre matière ?
Comment ?
C'est dans votre matière ?
Tout à fait. Mais le programme du TD, c'est pas moi qui le fais. Oui, bien sûr. Ben, j'espère que vous faites la passerelle et que vous voyez la complémentarité. D'accord. Ben, si vous avez des questions ou des difficultés, vous en parlez avec l'enseignant concerné. D'accord. Bon, moi, ce que je... Donc, on ne va pas polémiquer. D'accord. Bon, moi, j'ai pas l'impression non plus d'être un enseignant extrêmement fermé. Je vois qu'il manque presque la moitié, voire les trois quarts des étudiants. Donc, je considère que cette moitié ou ces trois quarts maîtrisent parfaitement la discipline stratégique et ont fait l'économie de venir en amphithéâtre. Voilà. Donc, vous avez des griefs par rapport aux enseignants, peut-être. Moi, je peux avoir aussi des griefs vis-à-vis des étudiants de niveau 10 Bac plus 4. Oui. Ça, c'est une excellente question, effectivement, parce qu'on peut très bien se dire que la distinction, la différenciation, c'est la même chose. D'après Koenig, il y a une nuance. D'après Koenig, la distinction ne repose pas forcément sur la différenciation. Pourquoi ? Parce que si la distinction, c'est uniquement de la différenciation, il y a un risque d'apparition de produits MeToo, ou de contrefaçon, ou de produits identiques. Et donc on risque de retomber rapidement dans une logique d'affrontement. Se différencier, c'est prendre le risque de tomber rapidement dans une logique d'affrontement parce que les concurrents vont copier, contrefaire et donc proposer une offre qui va redevenir, Quand je dis substituable, c'est dans le cadre de cette concurrence. D'accord ? Oui. C'est une rupture technologique par rapport à l'offre proposée. La différenciation, c'est être perçu comme par exemple haut de gamme ou bas de gamme dans les aspirateurs avec sac. Quand vous proposez quelque chose sans sac, c'est une rupture technologique, vous êtes dans la distinction. C'est même plus de la différenciation, c'est encore autre chose. Comment ? Elle se fait au regard de ce que propose le leader. Ce qui veut dire que plus votre offre paraît éloignée de ce que propose le leader, et moins vous avez de chances d'entrer en conflit ou en concurrence avec le leader. Et le challenger a besoin de temps pour s'installer sur le marché. Et donc il n'a pas besoin, dès le départ, d'entrer en conflit avec le leader et de rivaliser avec le leader. Donc il va chercher une manière de jouer sur l'inertie du leader, c'est-à-dire le fait que le leader va mettre du temps à réagir et à contrecarrer ses projets. Je vais vous prendre un autre exemple. Vous prenez l'exemple dans l'automobile. C'est l'idée que le challenger, par exemple, peut investir et développer un produit qui n'a jamais fait ses preuves. Et donc, il risque d'échouer. Donc, le challenger qui prend ce risque ne constitue pas une menace pour le leader. Le leader ne va pas chercher à copier ou à s'inspirer de ce que propose le challenger sous sa marque, de peur de ternir sa réputation ou d'inquiéter ses clients. Alors ça, c'est l'exemple de l'arrivée des voitures low cost en provenance de Chine et de Corée, c'est-à-dire des voitures à bas coût et à bas prix. Pourquoi c'est une stratégie de distinction. Pourquoi on est dans une stratégie de rupture par rapport à ce qui était proposé avant ? Et pourquoi, de ce point de vue-là, les leaders ont mis du temps à réagir ou n'ont pas réagi de prime abord ? Parce que le business model dans l'automobile, c'est de quoi ? C'est de gagner en productivité, de réduire les coûts chaque année, mais de continuer à augmenter les prix et à maintenir les marges. De quelle manière, si vous gagnez en productivité, c'est que vous allez proposer toujours plus pour un prix sensiblement plus élevé. Plus d'options, plus de confort, plus de sécurité. Et vous proposez aux clients quoi ? D'utiliser 20%, 30% des options, mais de payer pour 100% des options. C'est un peu le même principe dans l'informatique, c'est un peu le même principe dans beaucoup de secteurs d'activité. Donc vous vendez un package au client, il a besoin d'utiliser 20 ou 30% de ce package, mais grâce aux 60 ou 70% restants, vous arrivez à payer vos marges et vos coûts. C'est ça le business de l'automobile. Donc c'est des véhicules d'entrée de gamme à 12 000, 15 000 euros. Là, l'entrée de véhicules low cost, c'est véritablement se passer en rupture par rapport à cette idée inéluctable que pour se développer, il faut toujours progresser dans l'offre d'options, de services et de confort, de sécurité. C'est l'inverse. C'est une offre régressive, c'est-à-dire pas d'image de marque, peu ou pas d'options, peu ou pas de confort. Des voitures basiques à bas prix et bien sûr qui coûtent moins cher à fabriquer. Et bien parmi les leaders pour le moment, il y a Renault qui a relevé le défi de la voiture low cost, et qui a décidé de répondre aux challengers chinois et coréens en lançant la Logan. Mais si vous analysez, la Logan n'a pas été lancée sous la marque Renault. Ça a été lancé sous la marque Dacia. Ça veut dire que Renault n'a pas pris le risque de déstabiliser ses clients ou de nuire à son image de marque en tant que leader.
Oui, monsieur. Excusez-moi de penser que la voiture, c'est Renault. C'est pas bête, mais c'est aussi Renault sous le logo.
Oui, bien sûr.
De toute façon, ça marche en partie, c'est pas tout ça, mais
vous êtes pas bête, effectivement. C'est vrai que on sait effectivement qu'il y a le moteur Renault, etc. Vous avez entièrement raison. Seulement, comment Renault aurait-il pu convaincre ses clients d'acheter une voiture Renault à 7 ou 8 euros, vendue dans les concessions Renault, sous la marque Renault, et dans le même temps proposer à ses clients l'ancien business model classique de vendre des véhicules d'entrée de gamme à 15 000 euros ou à 16 000 euros? Renault ne peut le faire qu'en dissociant les images de marque, en jouant sur les effets d'échelle d'un véhicule à l'autre, donc vous allez retrouver le même moteur effectivement, mais en jouant sur la différence d'image de marque, avec un positionnement commercial différent. Oui, mais je crois que c'est le principe même de ce type de véhicule. C'est le principe de ce véhicule. Alors, qu'est-ce que ça a comme conséquence et incidence stratégique? Premièrement, introduire ce type de véhicule, ça introduit un risque de cannibalisation dans l'entrée de gamme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Renault devient son propre concurrent avec Dacia pour le lancement des véhicules d'entrée de gamme. Ça veut dire qu'une partie des clients traditionnels de Renault peut quitter Renault pour aller chez Dacia. Pourquoi c'est problématique? Parce que les marges chez Dacia sont beaucoup moins élevées que chez Renault. Donc ça veut dire que Renault crée, en répondant à l'arrivée des voitures low-cost chinoises et coréennes, crée dans son groupe des risques de cannibalisation, de transfert de clients ou de perte de clients vers une filiale avec les marges plus basses et les prix plus bas. Pourquoi? Parce que Renault, au départ, qu'est-ce que visait Renault? C'était tout simplement de faire fabriquer ce type de voiture en Roumanie, donc dans des pays à bas prix, et de les vendre en Inde et en Chine principalement. Pourquoi? Parce qu'il y a un marché potentiel énorme, mais le pouvoir d'achat des consommateurs est très faible. Et revers de la médaille, ce que Renault n'avait pas prévu, c'est que ça allait séduire également des consommateurs sur les marchés européens à fort pouvoir d'achat. Là où Renault pensait que l'image de marque était un aspect justement important, il s'avère que, au contraire, la Logan connaît un succès commercial grandissant en Europe. Ce qui pose aussi un autre problème, c'est le risque de concurrence entre la Logan et le marché de l'occasion de Renault, notamment. Ça va, c'est un type de véhicule qui peut tuer une partie du marché de l'occasion. Or, c'est le marché de l'occasion qui fait vivre le marché des pièces détachées, des accessoires. Et c'est là aussi où Renault gagne le plus de marge, où la richesse créée est la plus forte. C'est dans les pièces détachées, les options. Donc, à travers cette voiture Logan fabriquée par Dacia, il y a certes une réponse à la stratégie de distinction des Chinois et des Coréens, mais en même temps, Renault a certainement introduit un bouleversement dans le jeu concurrentiel des firmes. Et maintenant, il y aura deux alternatives de plus en plus dans l'industrie automobile. L'alternative toujours plus ou toujours moins. Et ça, c'est un bouleversement total. Pourquoi? Parce que Pour gagner autant d'argent avec le modèle toujours moins, il faudra vendre des quantités astronomiques de voitures que par rapport au modèle toujours plus. Donc ça oblige très certainement une entreprise comme Renault à être extrêmement performante sur les marchés émergents. Oui.
La stratégie de Renault qui est de développer Dacia et avec des ventes qui augmentent, est-ce qu'on peut pas dire que c'est une stratégie gagnante finalement, du moins sur ce qu'on peut observer sur un peu.
On peut dire que le secteur automobile est cyclique, donc il baisse, c'est pas parce que les constructeurs sont moins compétitifs ou moins innovants, c'est pas ça. C'est que tous les 7 ans, il y a un besoin de renouvellement de voitures qui est moins élevé, et donc les ventes ont tendance à diminuer. Et maintenant, est-ce que la Logan est une réponse à cela? Je ne pense pas. Si on regarde les résultats des constructeurs, tous les constructeurs voient leurs résultats baisser en période de conjoncture difficile. Et le fait de proposer ce type de voiture ne change rien au problème. Ce qui pourrait changer, c'est s'il y avait des effets de cycle inversés, notamment entre les marchés émergents et les marchés comme l'Europe ou les États-Unis. À ce moment-là, on pourrait dire que Dacia est un amortisseur de cycle. Mais les marchés émergents ne sont pas encore mûrs. Donc aujourd'hui, Dacia gagne des parts de marché sur les marchés non émergents. Ce qui est quelque part aussi contre-productif. C'est-à-dire que Renault fait des volumes, mais perd des marges. Et donc la rentabilité du groupe s'affaiblit. Donc même si y a peut-être plus de volume que pour d'autres constructeurs, la rentabilité globale est certainement plus faible. Donc finalement, ce n'est pas la solution miracle aux effets de cycle. À moins d'avoir une diversification, tous les constructeurs automobiles savent qu'ils doivent engranger des réserves en période faste pour arriver à survivre en période plus difficile. On parle, je crois, de plus de 2000, 3000, 4000 emplois supprimés dans l'industrie automobile là, dans l'année qui vient ou dans les deux ans qui viennent. Il y aura des plans de restructuration. Mais ça, c'est lié au cycle conjoncturel. D'accord. Autre question? Donc, autre stratégie d'évitement, ce que l'on appelle la stratégie de rente. La stratégie de rente. Alors qu'est-ce que c'est la stratégie de rente? Bon, c'est les entreprises qui cherchent d'une certaine manière à enfermer le client dans une offre produit ou service et d'une manière ou d'une autre à empêcher le client de faire jouer librement le jeu de la concurrence. Autrement dit, l'entreprise qui parvient à cela, c'est une entreprise qui bénéficie d'une rente, d'un phénomène de rente. Comment ? Oui, je vais reprendre, je vais développer. Donc la stratégie de rente, c'est une stratégie qui consiste à enfermer le client dans une offre produit ou service spécifique à l'entreprise, voire exclusive à l'entreprise, sans que le client n'ait la possibilité de faire jouer la concurrence ou de quitter l'entreprise en question. Alors, par quel miracle est-ce donc possible ? Vous avez déjà l'entreprise qui essaye de détenir un monopole de droit par les contrats. Monopole de droit par les contrats. Exemple, les abonnements, si vous prenez des abonnements internet, téléphonique, télévision payante, etc., bien souvent, on demande aux consommateurs de s'engager sur une période définie par contrat et donc de payer un service par abonnement. L'abonnement aussi à des journaux se déroule de la même manière. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pendant la période de l'abonnement, contractuellement, le client est lié à l'entreprise et à son offre de produits ou de services. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'entreprise peut prévoir pendant un an, six mois, deux ans, les revenus dégagés par client. Et donc bénéficie de ce qu'on appelle une rente. C'est-à-dire que chaque mois, l'entreprise n'est pas obligée d'aller chercher des clients et de les prendre aux concurrents. Elle les a enfermés dans un contrat. Elle a le droit avec elle pour bénéficier de cette rente. Alors il existe d'autres barrières à la sortie introduites pour le client. Au-delà des barrières juridiques, vous avez aussi les barrières technologiques. Vous prenez Sony est une entreprise championne en la matière, puisque Sony a le don de réaliser des produits non compatibles avec les produits concurrents.
Non, j'ai dit que c'est vrai.
Vous avez un exemple ?
Non, j'ai dit que c'est vrai seulement, c'est vrai.
Les consoles vidéo, les...
Il y a les ordinateurs aussi.
Les ordinateurs. Les formats UMP.
Apple.
Alors Apple, est-ce qu'il fait ça ?
Non, Apple, c'est ça, c'est différenciation. C'est pas tout à fait ça, Apple.
C'est pas tout à fait ça parce qu'il rend ses produits compatibles avec les autres. Comme il est marginalisé, il essaye au contraire de rendre les interfaces, les produits, les logiciels, les applications compatibles. Maintenant, il y a un autre aspect, on va en reparler, il y a un autre aspect. Il y a peut-être une rente d'image qui empêche une partie des consommateurs d'Apple d'aller chez le concurrent au risque de perdre cette image.
En plus, Sony, ils ont un système...
Alors, on reprend rapidement Sony. Il y a une incompatibilité des équipements et des programmes avec la concurrence. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le consommateur qui achète des produits Sony, soit il continue d'acheter Sony, soit il abandonne Sony et il repart de zéro pour s'équiper à nouveau avec les équipements, les contenus, etc. Donc c'est sur le plan de la technologie. Ça veut dire que la stratégie de Sony, c'est véritablement d'éviter de rendre compatibles les équipements pour introduire un phénomène de rente et pour d'une certaine manière, éviter la compétition. Pourquoi ? Parce que le consommateur ne peut plus faire jouer la comparaison des produits, la comparaison des prix, la comparaison des performances, puisqu'il est dans un univers qui, à lui seul, représente un marché. Donc Sony bénéficie d'une rente pour tout nouveau client Sony, sur certains types de produits. Vous avez également certaines firmes qui raisonnent par la notion d'exclusivité. Je prends l'exemple de la bataille commerciale entre Canal+ et TPS, bon, qui n'existe plus aujourd'hui puisque Canal+ a absorbé TPS. Mais pendant des années, Canal+ développait l'argument commercial que les programmes diffusés étaient exclusifs, les films, le sport. Autrement dit, un consommateur ne pouvait pas faire jouer la concurrence RTC-TPS parce qu'il perdait l'exclusivité des films et du sport. Et là aussi, ça permettait à Canal+ de jouir d'une rente sans passer par la logique d'affrontement en compétition classique. Donc il y avait, d'une certaine manière, ça permet d'éviter la compétition frontale avec TPS. Vous dites, je propose des programmes exclusifs, donc le consommateur, de toute manière, il ne peut pas réellement comparer ou opposer. Oui. Là, c'est... Non, là, c'est, si vous voulez, c'est plus fort que la stratégie de distinction parce que vous enfermez le consommateur dans un univers et vous l'empêchez de quitter cet univers soit par des barrières juridiques, soit des barrières technologiques, soit des barrières commerciales. Dans la stratégie de distinction, si je reprends l'exemple de Dyson, vous avez un aspirateur sans sac, mais c'est pour autant, si vous voulez acheter un aspirateur avec sac, vous pouvez le faire, vous n'êtes pas pieds et poings liés avec Dyson. Par contre, peut-être que certains marchands d'aspirateurs avec sac, eux, vont avoir des tailles de sac spécifiques, des accessoires spécifiques, et quand vous allez donc consommer un produit particulier, vous serez, d'une certaine manière, en tant que consommateur, lié à tous les produits dérivés, et vous n'aurez pas d'éléments de comparaison. Donc je dirais, à la limite, dans l'exemple de Dyson, c'est plutôt la stratégie de rente, elle va être recherchée plutôt par les leaders du secteur, ceux qui vont vendre un aspirateur bon marché et gagner des marges élevées sur les accessoires ou les produits dérivés. Donc l'idée de la rente, c'est ça, c'est que finalement vous éliminez la concurrence parce que vous allez empêcher le consommateur par des artifices juridiques, commerciaux, économiques, techniques, de sortir de l'offre. Vous prenez Microsoft avec le logiciel Windows, c'est ça, Windows. C'est un peu le même principe, c'est de vendre des additifs, des extensions, des mises à jour, et d'une certaine manière, de contraindre le consommateur à rester dans l'univers Microsoft. Pourquoi ? Parce que Microsoft ne communique pas le code source de ses programmes, et donc empêche toute apparition de systèmes applicatifs concurrents ou dérivés de Windows. Vous avez aussi l'exemple de Suez, Veolia, Général des Eaux, Bouygues, qui signent des contrats, par exemple l'eau courante ou le chauffage domestique sont des contrats que vous avez chez vous, des contrats qui sont signés sur 15-20 ans. Quelle est la possibilité que vous avez, vous, en tant que consommateur, de dire « Non, l'eau courante que j'ai au robinet, elle ne me convient pas, je veux aller voir un concurrent. » C'est zéro. C'est zéro. C'est une stratégie d'ordre. Pourquoi ? Parce que l'entreprise qui répond à un appel d'offre, elle gagne de l'appel d'offre sur 15-20 ans. Elle n'est pas remise en compétition avant 15-20 ans. Donc il y a une logique économique industrielle. Mais entre-temps, le maire qui a pris la décision de choisir telle ou telle entreprise, lui, il est remis en question tous les 5 ans. Donc le seul moyen, par exemple, si vous n'êtes pas satisfait des services de confort urbain, c'est bien sûr de peser dans les décisions électorales et dans les élections législatives. Puisque c'est le décideur, ce sont les élus locaux qui se regroupent en commission qui décident. Mais entre-temps, l'entreprise, elle est protégée de la compétition. Elle est dans une forme, dans une logique de rente. Parce que, quoi qu'il arrive, tous les mois, elle sait qu'elle perçoit un abonnement sur la consommation d'eau. Avec des volumes plus ou moins importants. Donc, c'est ce qu'on appelle un marché captif. Le consommateur qui est dans telle ville ou telle région, ou telle, il est captif. De même que lorsqu'il emprunte une autoroute, une fois qu'il est sur l'autoroute, il est captif des services qui sont proposés sur l'autoroute. Il ne peut pas dire « Ah, le prix de l'essence est 30% plus cher que en dehors de l'autoroute. » Donc, là, on parle pour les compagnies pétrolières d'une rente de position. Une fois qu'elles sont positionnées sur l'autoroute, elles ont une rente de position. Elles peuvent, ce qui leur permet d'une certaine manière d'éviter la concurrence. D'ailleurs, ça se traduit même parfois de l'évitement à l'entente, c'est que toutes les compagnies alignent leur prix. Et donc, on est dans l'évitement rente, puis dans l'évitement entente. Donc, on a tout le consommateur est confronté à toute la panoplie des stratégies pour éviter l'affrontement. C'est un exemple. Pourquoi ? Parce que quel est le consommateur qui, sur l'autoroute, va quitter l'autoroute, faire 30 km entre une station et reprendre l'autoroute ? Donc, la rente, c'est lorsqu'il y a des barrières à la sortie pour le client. Et bien sûr, s'il y a des barrières à la sortie pour le client, vous évitez la concurrence. L'entreprise évite d'une certaine manière la concurrence. Et vous avez des tas de secteurs où l'un des enjeux stratégiques pour les entreprises, c'est d'arriver à cette situation rente. Prenez le secteur bancaire. Prenez le secteur de la téléphonie, prenez le secteur internet, des services de nouvelles technologies. Ah oui, bien sûr, il y a des rentes basées sur le contrat, il y a des rentes techniques, il y a des rentes, bien sûr. Mais le résultat est même, si le consommateur est captif, et s'il ne peut pas librement faire jouer la concurrence, il permet à l'entreprise d'éviter, pour partie du moins, la concurrence. C'est d'ailleurs pour ça que, dans ces secteurs d'activité, l'enjeu numéro un, c'est d'acquérir de nouveaux consommateurs, parce qu'une fois qu'ils sont acquis, les barrières à la sortie sont tellement fortes que pour les fidéliser, les efforts sont beaucoup moins. Donc ça coûte beaucoup plus cher à une entreprise, d'une manière générale, de prospecter que de fidéliser.
Et monsieur ?
Oui ?
Si le consommateur est captif, est-ce que ça veut dire que le marché est captif sur ce plan ? Est-ce que c'est sur un marché captif que le consommateur est captif ?
Je comprends pas très bien votre question, mais...
Bon, pour faire simple, qu'est-ce que c'est qu'un marché captif ?
Marché captif, c'est un marché où il y a des barrières à la sortie très élevées pour les consommateurs. Je prends l'exemple d'une collectivité locale. Vous décidez de louer ou d'acheter un appartement dans une collectivité locale, Montigny ou... vous êtes captif, d'une certaine manière, des choix de services publics de proximité pris par la collectivité. Des choix d'infrastructures, des choix de décisions concernant le fournisseur d'eau, le fournisseur de chauffage, de transport collectif, etc. D'accord ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous avez d'autres alternatives que d'utiliser ces services ou pas. Mais vous ne pouvez pas les remplacer ou faire jouer la concurrence à titre individuel. Et des exemples de marché captif, vous en avez beaucoup. J'ai pris l'exemple de l'autoroute, c'est un marché captif lié à des positions. Vous avez les marchés captifs liés à la technologie, vous avez au contrat, vous pouvez trouver beaucoup d'exemples. Bon, il est évident que le danger, un peu, le risque un peu de vouloir enfermer, de se distinguer, puis après de vouloir enfermer le consommateur dans une rente, c'est après de dériver très doucement vers la situation d'entente, c'est-à-dire la stratégie où où là, tout est organisé pour échapper véritablement à la concurrence, non pas en enfermant le consommateur dans des barrières, en entourant le consommateur de barrières artificielles ou réelles, mais en organisant le marché de manière à éviter toute logique d'affrontement et de manière à protéger les positions concurrentielles des uns et des autres. Autrement dit, prenons une logique d'entente dans l'amphithéâtre. Si je vous dis, vous êtes sur un marché, vous êtes dans une logique d'entente, peut-être qu'il y a des bonnes places dans l'amphithéâtre et des moins bonnes places. Peut-être que certaines places permettent d'apprendre mieux que d'autres places. Peut-être y a-t-il des emplacements stratégiques. Eh bien, l'entente, c'est de dire, quelque part, on ne change pas de place. D'accord ?
Ça peut être un peu les marchés comme les FR, comme les patients
français, ils ont eu un procès comme ça. Ah oui, ils ont eu un beau procès, je peux vous en dire deux mots. Ils ont eu un très beau procès, puisque ils ont été condamnés à verser 530 millions d'euros d'amende par le Conseil de la concurrence en décembre 2005 pour entente illicite. Ils ont verrouillé le marché français entre 1997 et 2003, donc pendant 6 ans, en ayant conclu un Yalta des parts de marché dans le secteur du mobile. Les opérateurs se seraient rencontrés secrètement tous les mois pour échanger des données confidentielles leur permettant d'adapter, d'aligner leur stratégie commerciale à l'évolution du marché. Au final, cette entente aurait abouti à une très forte inertie des parts de marché, avec environ 49% pour Orange, 35% pour SFR et 16% pour Bouygues. Bon, voilà un exemple, effectivement, d'entente. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le grand perdant dans une situation d'entente, c'est le consommateur, bien évidemment. Pourquoi ? Parce qu'il ne peut pas faire jouer la concurrence. Il n'y a plus de concurrence réelle entre les opérateurs. Si vous prenez les opérateurs téléphoniques, ça veut dire que peut-être, s'il n'y avait pas eu cette situation d'entente, peut-être que les tarifs téléphoniques auraient diminué de 30, 40, 50% sur la période. Ça veut dire qu'en principe, maintenant, ils sont amenés, non pas forcément à baisser les prix, mais à ne plus se concerter pour aligner leurs offres commerciales. Le problème, c'est que vous êtes dans un secteur où il y a déjà des situations rentes. Rentes technologiques au départ, parce que les réseaux étaient incompatibles entre eux. Rentes technologiques par les équipements. Rentes contractuelles par les abonnements. Phénomène d'entente sur les prix, je veux dire, le client, il est pris en otage. Consommateur, consommer de la téléphonie mobile, c'est stupide, de ce point de vue-là. On voit bien que là où la concurrence joue, c'est stimulant pour la diversité de l'offre et puis pour ça peut peser aussi sur la diminution des prix. Quand vous prenez sur certains secteurs téléphonie fixe, prenez la téléphonie fixe. La téléphonie fixe, là, par contre, vous avez eu une compétition forte qui a fait baisser les prix de façon extraordinaire. Puisqu'on arrive maintenant à des forfaits de consommation, au moins ce qui n'existait pas. Il y a 20 ans, la France Télécom, il n'était pas question de forfait, c'était un coût en fonction de la distance et de la durée. Comment ? Oui, c'est ce que j'étais en train de dire. Mais désolé de vous interrompre. Vous aviez écouté, non, ce que je disais ? Oui, des forfaits, effectivement, de téléphonie illimitée, si vous voulez, en tout cas, qui ne sont plus connectés à la durée ou à la distance. Bon. enfin peu importe les détails techniques, il y a un phénomène de compétition qui a été favorable à ce niveau-là. Alors j'ai d'autres exemples. Dans l'hôtellerie de luxe, vous avez des palaces parisiens qui ont été condamnés également pour phénomène d'entente. Et donc, condamnés à des amendes de plusieurs centaines de milliers d'euros. Alors, pourquoi l'entente ? Alors, l'entente, c'est déjà un phénomène qui est illicite, vous l'avez compris. Les entreprises qui cèdent à cette tentation sont condamnées. Oui ?
L'entente, là, concernant les hôtels de luxe par exemple, qui ont joué sur, par exemple, une chute de 30% des prix.
Comment ?
Concernant l'entente, oui. Dont vous parlez entre les hôtels de luxe parisiens,
oui. Le Bristol, le Ritz, le Crayon.
En quoi ça a été sur quel aspect, enfin, parce que sur le prix, ça n'aurait pas diminué les prix.
Non, c'est pas sur le prix, mais c'est sur les parts de marché. S'il vous plaît, mesdemoiselles, mesdames, un peu de concentration. La question de votre... Ben, vous pouvez intervenir publiquement, collectivement. C'est fait pour... Parce que la question de votre camarade est pertinente et intéressante. Vous voulez y répondre ? D'accord. Ben, c'est tout simplement dans l'évasion des clients ou dans les barrières des clients. Quand vous faites une entente entre hôtels de luxe, vous maintenez votre portefeuille client tel qu'il est. Donc le risque, c'est, si vous faites jouer la concurrence, c'est de perdre des clients. C'est pas de modifier les tarifications, mais...
On sait qu'ils se partagent le même style de clientèle, qui a le même pouvoir d'achat, donc ils iront...
Non, il y a des nuances. Hein. Si la concurrence joue, il y a des nuances. Les investissements dans les hôtels de luxe sont très élevés, et les prestations de services peuvent présenter des nuances d'un hôtel à l'autre. Si vous partagez des informations commerciales sur les clients, les tarifications, vous empêchez les clients principaux de mesurer cela ou d'apprécier cela. La vraie concurrence, c'est celle qui finalement se déroule par le haut. Là, ce n'est pas une question effectivement de guerre des coûts, de guerre des prix, mais c'est d'amélioration des services. Si finalement vous avez un service qui est aligné d'un hôtel à l'autre, le consommateur ne changera pas ses habitudes. Mais si vous lui proposez plus dans un hôtel de luxe donné pour le même tarif, hein, ou même plus cher, si ça répond vraiment à ses attentes, il changera. D'accord ? Donc il y a quand même des enjeux importants pour maintenir, préserver sa clientèle. Enfin, des enjeux importants qui ne justifient pas pour autant la stratégie d'antan. La meilleure parade à la compétition, c'est d'affronter réellement la compétition et d'avoir des avantages compétitifs. L'entente, c'est un... l'évitement, c'est un faux... c'est un réflexe à court terme qui peut être un peu préjudiciable. Pourquoi ? Parce que, d'une certaine manière, l'entreprise qui recourt à l'entente oublie pendant cette période d'investir dans les avantages compétitifs. Et donc elle prend du retard sur la compétition. Et elle est dans l'illusion. Elle est dans l'illusion que tout va bien, que les parts de marché sont stabilisées, mais par des artifices, distorsion de marché. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le jour où l'entente s'arrête, l'entreprise doit rattraper 5, 6, 10 ans de retard. Autrement dit, qu'est-ce que ça veut dire pour Bouygues, SFR, Orange Ça veut dire que c'est des entreprises qui n'ont rien compris à la compétition téléphonique. Elles ne se jouent pas sur l'Hexagone, elles se jouent au niveau européen, au niveau mondial. Donc pendant que ces opérateurs ont protégé leur part de marché au niveau national, il y a des opérateurs qui se sont développés au niveau mondial. Donc aujourd'hui, Orange, Bouygues, SFR, ce sont des proies. Ils sont fragiles. peuvent être des sociétés qui peuvent être rachetées à tout moment. Alors Vodafone, à un moment donné, voulait racheter CGTEL. Ça ne s'est pas fait, mais ça se fera peut-être. Donc si vous n'avancez pas, et si vous vous retranchez, vous cachez derrière votre main, à un moment donné, vous êtes bien obligé de baisser le bras et de voir la réalité en face. Bon, eh bien, les entreprises qui ont contracté une entente, elles en sont là. C'est comme pour les étudiants qui refusent de suivre des cours ou d'affronter la réalité. Le jour où ils seront en entreprise, on ne va pas leur demander pourquoi ils étaient absents en amphi, on va leur demander les compétences qu'ils sont censés avoir appris. D'accord ? Donc vous pouvez tricher avec vous-même pendant un moment, il arrive un moment où la sanction tombe. Peut-être pas cet après-midi dans l'amphi, peut-être dans 2 mois, dans 6 mois, dans 1 an, lorsqu'on va justement dire... Mais vous connaissez au fait les phénomènes d'évitement, d'entente, d'affrontement, de coopération, qu'est-ce que vous en pensez ? Alors vous allez me dire, mais monsieur, on ne va pas faire de la stratégie demain en entreprise. Certes, mais vous serez tous concernés par ces enjeux. Pourquoi ? Parce que si vous travaillez au Bristol ou chez Orange, et s'il y a des amendes et des phénomènes d'entente, si vous êtes impliqué, vous ne pourrez pas dire, j'ignorais totalement l'intérêt. Et puis là, vous avez des arguments aussi à faire valoir dans des discussions avec des collègues. Vous connaissez les avantages et les limites de l'entente. Alors, une entente ponctuelle, ça peut parfois se justifier dans le BTP, par moment, les entreprises, sur des gros marchés, se partager les marchés pour optimiser leur carnet de commandes. Donc, on a vu ce phénomène. Mais si vous maintenez durablement un phénomène d'entente pendant 5 ans, 6 ans, comme c'était le cas dans la téléphonie mobile, vous prenez 5-6 ans de retard par rapport à vos concurrents. Le meilleur moyen d'avancer, c'est d'être stimulé par la concurrence. C'est pas de refuser la concurrence. Donc là, dans cette salle, on devrait avoir effectivement des étudiants d'HEC, de l'ESCP, EAP, de l'Université de Paris-Dauphine, etc. Ça serait stimulant. Parce que c'est ce qui vous attend demain. Oui ?
Quand on parle de retard, c'est un retard technologique, quand on parle de croissance.
Un retard, je crois que déjà, c'est un retard commercial. Vous ne considérez plus le client comme un arbitre, mais comme, entre guillemets, une vache à lait. Donc, comment voulez-vous mettre en œuvre, instaurer une relation client digne de ce nom, si le client, c'est un numéro d'abonné ? Donc, vous prenez un retard marketing commercial déjà important. Retard aussi technologique, parce que vous êtes garanti de maintenir vos parts de marché, donc pourquoi investir dans des nouvelles technologies et prendre le risque d'investir. Si vous investissez, de toute manière, vous ne gagnerez pas plus de clients. Et vous n'en perdrez pas non plus. Donc vous n'êtes pas incité à faire ces efforts de restructuration indispensables dans un secteur d'activité aussi mouvant et aussi dynamique que la téléphonie ou l'industrie du luxe. Bien évidemment. Qu'est-ce qui peut vous stimuler, vous, en tant qu'étudiant ? Si ce n'est la compétition que vous aurez demain sur le marché du travail. Et si je vous dis qu'il y a un phénomène d'entonnoir et que les meilleurs d'entre vous auront du boulot, pas les autres. Si je vous dis pas ça, si je vous dis, mais non, soyez relax et détendu, ne venez pas en cours, faites-en le moins possible, ne lisez pas, et vous verrez, ça se passera très bien. Est-ce que vous serez stimulé, motivé pour vous lever le matin ? Pour bosser 10 heures par jour, peut-être pas. Pour les entreprises, c'est pareil. Elles sont stimulées par la compétition. Si il n'y a pas de compétition, eh bien, elles vont s'endormir sur leur laurier et puis, d'une certaine manière, se retrouver dans une situation difficile. Alors, je continue d'avancer parce que le temps passe et je vais finir ce chapitre. On va parler maintenant de la dernière forme de stratégie importante, d'affrontement, qui est un peu la relation la plus classique entre entreprises. Alors l'affrontement, vous avez deux types d'affrontements. L'affrontement réel et virtuel. Avec ici la coercition et ici l'interdiction. Coercition, interdiction, défense. Dissuasion. Persuasion. Donc, nous avons épuisé un peu le registre de la coopération d'évitement, et il arrive quand même, malgré tout, et je dirais même le plus souvent, que les entreprises s'affrontent. De quelle manière s'affrontent-elles ? Elles s'affrontent soit de manière réelle, soit de manière virtuelle. On va voir la distinction entre ces deux modalités. Alors, elles s'affrontent de manière réelle ou virtuelle, avec une logique de coercition ou d'interdiction, c'est-à-dire coercition, c'est contraindre, pousser le concurrent à agir d'une certaine manière dans l'intérêt de la firme, ou interdiction, c'est protéger la position concurrentielle de la firme vis-à-vis des attaques du concurrent ou des menaces du concurrent, soit de manière réelle ou de manière virtuelle. Par la défense ou la dissuasion. Bon, on va aborder cela. Vous pouvez mon collègue Jérôme Hibert en 96 a travaillé sur ce sujet de façon relativement efficace. Il a balisé ce sujet. Alors, parlons tout d'abord de l'affrontement réel, c'est-à-dire l'affrontement qui se déroule et qui peut se matérialiser concrètement dans les actions, dans les décisions stratégiques de l'entreprise. Alors, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme type d'affrontement ? Premièrement, il peut y avoir une entreprise qui va chercher à dominer les autres entreprises. Alors, comment ça peut se passer ? Eh bien, elle peut chercher à dominer les autres entreprises, déjà par les prix. Si elle est capable de diminuer ses coûts plus vite que les concurrents, elle peut diminuer les prix plus vite que les concurrents. Et si le prix est un argument de vente, et si le prix est un élément de différenciation entre les produits, à ce moment-là, l'entreprise peut asphyxier ses concurrents et éliminer les concurrents réellement. Beaucoup d'entreprises qui déposent le bilan, c'est parce que c'est des entreprises qui ne sont pas assez compétitives au niveau des prix, perdent des clients et disparaissent. Prenons l'exemple de Alcatel-Lucent. On parle actuellement d'une restructuration avec combien ?
17%.
D'accord, donc 17% d'effectifs. Donc c'est très bien déjà que vous ayez en tête ces chiffres et ce dossier. Ça fait partie de moi de ce que j'attends. C'est pas très compliqué en stratégie. Donc 17% des effectifs au niveau mondial, 12 500 personnes, 1300 en France. Comment justifier cela si ce n'est pas la recherche d'une maîtrise des coûts et donc pas une logique d'affrontement. Là, très clairement, on n'est pas dans une, sur un marché où tout le monde est gentil. Et puis, on peut être moins compétitif, survivre malgré tout. Là, c'est où je suis capable de restructurer, où je disparais du paysage économique. Et donc, pour une société de la taille d'Alcatel, ça représente tout de suite des proportions importantes de restructuration.
Monsieur, oui. Je ne suis pas experte en ce dossier, je précise, mais c'est, dans ce cas-là, c'est un échec de stratégie, puisqu'à la base, les deux groupes s'étaient rapprochés dans une optique de stratégie. Donc si on voit aujourd'hui qu'il y a des diminutions d'effectifs, on peut qualifier d'échec de leur stratégie.
Non, c'est un peu trop simple, je crois, de dire cela.
Donc ça fait partie de la procédure pour aboutir à leur stratégie.
Non, le problème, quand vous avez un mariage d'entreprise, vous avez souvent des doublons. Et vous avez des restructurations qui sont prévues. Pourquoi ? Exemple, on fusionne l'université de l'UFR SSH avec l'UFR bâtiment Leclerc, SJP. Il va y avoir des doublons administratifs.